Chapitre 29. Le miracle de la multiplication des pains. Jésus marche sur l'eau. La fête de la Pâque juive approchait, et les apôtres se réunirent avec ceux qui les accompagnaient autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Et il leur dit : Venez, et allons nous reposer un peu à l'écart. Car beaucoup de gens allaient et venaient, et ils ne pouvaient pas même manger tranquillement. Discrètement, ils prirent un bateau pour se rendre vers un endroit isolé. Mais le peuple les vit s'en aller. Beaucoup d'entre eux le connaissaient, et ils accoururent de toutes les villes vers cet endroit. Ils les devancèrent et se rassemblèrent près de lui. En descendant du bateau, Jésus vit beaucoup de gens, et il fut rempli de compassion à leur égard, car ils étaient comme des brebis sans berger. Et comme le jour touchait à sa fin, ses disciples vinrent à lui en disant : C'est un endroit isolé, et l'heure sera bientôt passée. Renvoie-les pour qu'ils aillent dans les villages aux alentours s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Mais Jésus répondit en leur disant : Vous donnez-leur à manger. Et ils lui dirent : Devons-nous aller acheter pour 200 sous de pain et leur donner à manger ? Mais Jésus leur dit : Combien de pain avez-vous ? Allez voir. Et après avoir compté, ils dirent : 6 pains et 7 grappes de raisins. Et il leur demanda à tous de s'asseoir sur l'herbe par 50. Et ils s'assirent en rang de 100 et de 50. Et après avoir pris les 6 pains et les 7 grappes de raisins, il leva les yeux vers le ciel, bénit et rompit les pains ainsi que les raisins, et les donna à ses disciples pour qu'ils les offrent aux gens. Et ils distribuèrent tout au peuple.
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Moi, le Christ, j'ai œuvré en Jésus à partir de la toute-puissance du Père, car j'étais en Jésus le Christ que je suis d'éternité en éternité, le corrigeant des cieux. En tant que force partielle issue de la force primordiale, j'ai opéré lors de ma venue sur terre, en tant que Jésus, un retournement décisif dans la chute. La force partielle issue de la force primordiale se changea en force de rédemption. Elle devint force de soutien pour toutes les âmes et tous les hommes. Elle agit en tant qu'énergie d'évolution au service de toutes les âmes et de tous les hommes. Mon héritage, la force partielle issue de la force primordiale, s'écoula en moi, Jésus, et agit à travers moi. Je m'unis alors à mon héritage puissant. Avec le soutien de cette force, je pus aussi accomplir les prétendus miracles et les guérisons. J'avais également pour mission d'aider, de guérir des hommes et de ressusciter des morts. Je le fis à partir de la toute-puissance de mon Père, en relation avec mon héritage, la force partielle issue de la force primordiale. Je montrai par là aux hommes la puissance du Christ de Dieu sur terre. En multipliant les pains, les fruits ainsi que les poissons, je leur ai montré que personne n'a besoin de souffrir de faim et de se priver de ce dont il a besoin s'il met en pratique les lois divines. À travers le prétendu miracle de la multiplication des pains, il fut révélé que l'homme pouvait vivre dans l'abondance s'il accomplissait la volonté de Dieu. Car la loi universelle est inépuisable pour les êtres spirituels et pour les âmes et les hommes qui font la volonté de mon Père, qui est aussi leur Père. Mes disciples m'apportèrent des pains et des raisins pour les multiplier. Ce jour-là, on m'apporta aussi des poissons morts pour leur multiplication. En prenant cette substance morte dans mes mains, j'expliquai aux hommes que le potentiel de force du Père, la grande force de vie, s'en était en grande partie retirée, et que je n'allais pas créer des poissons vivants pour qu'ils soient ensuite tués. J'expliquai aux hommes que la vie est présente dans toutes les formes d'existence et que l'homme ne devrait pas supprimer la vie volontairement. Les hommes, et en particulier les enfants, me regardèrent tristement. Ils ne purent pas me comprendre, parce qu'ils se nourrissaient essentiellement de poissons, de pain et de peu d'autres choses. Je leur parlais alors en ces termes : Les énergies de la terre conservent encore un peu les poissons morts. Ainsi, je ne vous donnerai pas des poissons vivants de l'Esprit du Père, mais à partir de l'énergie de la terre, je créerai pour vous des poissons morts, c'est-à-dire pauvres en énergie. Ils ne seront jamais vivants, et de ce fait ne pourront pas être tués. Je veux vous montrer le goût de ce qui est vivant, le pain et les fruits, et en comparaison, celui de la nourriture morte. Et à partir des énergies de la terre, j'ai créé pour eux des poissons contenant peu de substances spirituelles. Je leur ai donné ces poissons morts en leur demandant de les manger avec le pain et les fruits, pour qu'ils sachent faire la différence entre la nourriture vivante et la nourriture morte, entre celle de haute vibration et celle de basse vibration. C'est dans ce sens que j'ai instruit les hommes. Je leur montrai ensuite, et vous montre aussi à vous qui lisez mes paroles, que c'est du fanatisme que de vouloir changer brutalement ses anciennes habitudes. En celui qui abandonne ses habitudes d'une minute à l'autre, s'opère une rupture et non une transformation. Et dans la rupture, il y a déjà le germe de la réapparition des anciennes habitudes qui n'ont été que refoulées. Elles peuvent alors ressurgir et se manifester avec bien plus de virulence, et il sera encore plus difficile de s'en séparer que cela ne l'était avant la mortification. L'homme ne devrait pas rompre brutalement avec ses anciennes habitudes, mais devrait s'en détacher progressivement en se tournant vers des objectifs et des valeurs plus élevées, ce qui conduit à la transformation. Ainsi s'effectue la mise en route spirituelle vers de nouveaux horizons. Dans toute mortification, il y a du fanatisme. Quelqu'un de fanatique condamne en sensation et en pensée les personnes ayant encore en elles la même chose ou quelque chose de semblable à ce qu'il a refoulé. De la sorte, il renforce davantage encore ce refoulement. Voyez, beaucoup d'aspects humains doivent encore souvent être concédés à l'homme enfermé dans ses habitudes jusqu'à ce qu'il reconnaisse lui-même ses fautes et abandonne ce qui est ancien pour mûrir spirituellement par l'auto-reconnaissance et l'expérience de lui-même ou par la souffrance. C'est ainsi que s'effectue une juste compréhension des choses et que l'homme est guidé selon la loi. En multipliant les poissons, j'ai montré que l'homme doit se transformer et non se mortifier. Chaque transformation s'accomplit selon la loi. C'est ainsi que s'opère le renversement d'une vie inférieure vers une vie supérieure. De même que la pierre ne peut se métamorphoser d'un jour à l'autre en fleur, mais seulement par un processus d'évolution, l'homme dont les habitudes sont imprégnées dans le sang et dans l'âme ne peut se changer en homme spirituel accompli d'un instant à l'autre. De même que la pierre se transforme au cours des cycles d'évolution, l'homme se transforme de l'inférieur au supérieur. Le changement, c'est la transformation de l'humain en spirituel. C'est en cela que consiste l'abandon progressif de l'humain, ainsi que le réveil du spirituel et du divin.
Et tous mangèrent et furent rassasiés. Ils ramassèrent encore 12 corbeilles de reste. Et ceux qui avaient mangé les pains et les fruits étaient au nombre de 5000 hommes, femmes et enfants. Et il leur enseigna beaucoup de choses. Après avoir écouté et vu, le peuple était rempli de joie et dit « C'est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Et lorsqu'il s'aperçut qu'il voulait le faire roi de force, il pressa ses disciples de monter dans le bateau et de traverser le lac avant lui pour rejoindre Bethsaïde sur l'autre rive, en attendant qu'il ait renvoyé le peuple. Après les avoir renvoyés, il se rendit sur une montagne pour prier. Le soir venu, il était seul, mais le bateau était au milieu du lac et fut secoué en tous sens par les vagues, car le vent était contre eux. À la troisième veille, Jésus vint à eux en marchant sur le lac. Et le voyant marcher sur le lac, les disciples s'effrayèrent et dirent que c'était un esprit, et crièrent d'effroi. Jésus leur adressa aussitôt la parole en disant « Rassurez-vous, c'est moi, N'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit en disant, « Seigneur, si c'est toi, permets que j'aille à toi en marchant aussi sur l'eau. » Et il dit, « Viens. » Et après être sorti, il marcha sur l'eau à la rencontre de Jésus. Mais lorsque le vent souffla avec violence, il s'effraya, et commençant à couler, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Jésus tendit aussitôt sa main et le saisit en disant, « Oh, que ta foi est petite! Pourquoi as-tu douté? N'est-ce pas moi qui t'ai appelé ?»
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Voyez, avoir peur, c'est douter des forces de Dieu et douter de son amour. Dieu est la vie porteuse et conservatrice. Celui qui en doute sombre. C'est pourquoi chaque doute envers Dieu est un rejet de Dieu, une chute dans les flots de l'humanité. Beaucoup de gens méprisent les lois de Dieu. Ils se méfient de Dieu par leur crainte et ouvrent ainsi les portes aux influences du satanique. Chaque sensation, chaque pensée, chaque parole ainsi que chaque action qui s'oppose à la loi divine de l'harmonie universelle, porteuse et conservatrice, signifie lâcher la main de Dieu et s'enfoncer dans les flots du monde. C'est pourquoi soyez vigilants et exercez-vous à reconnaître la volonté de Dieu et à l'accomplir. Si vous ne connaissez pas encore les lois divines dans tous ces détails, alors prenez les 10 commandements. Ils sont des extraits de la loi puissante et universelle de Dieu. Efforcez-vous d'en reconnaître la profonde signification et de vivre leur contenu, et vous apprendrez peu à peu à connaître en totalité la loi de Dieu. Car je la révèle aujourd'hui à travers la prophétesse de Dieu qui est également la prophétesse instructrice et messagère pour l'ère nouvelle. Celui qui se tient à la loi de Dieu est conduit directement par lui.
Et il rejoignit ceux qui étaient dans le bateau, et le vent se calma. Ils étaient complètement stupéfaits, car leur compréhension ne s'était pas développée à la suite du miracle des pains et des fruits, parce que leur cœur était endurci.
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Il en est aujourd'hui comme autrefois, lorsque j'étais avec les miens, en tant que Jésus de Nazareth. De prétendus miracles ont lieu chaque jour. L'homme s'y est habitué et les attribue à de soi-disant hasard ou à la chance. Miracles qui, ainsi le croit-il, surviennent de temps à autre, mais pour lesquels il n'y a pas d'explication. Voyez, il n'y a pas de hasard. Tout est déterminé soit par la loi des semailles et des récoltes, soit par la loi de l'amour. La force du Christ que je suis, qui était autrefois incarné en Jésus de Nazareth, continue à agir dans l'espace et dans le temps. Beaucoup de gens guérissent par mon esprit et beaucoup sont protégés de graves accidents. Plus d'une personne est conduite de façon à ce qu'elle évite des problèmes majeurs ou des souffrances physiques. Celui qui croit en moi et se tient au commandement du pardon, de la demande de pardon et ne recommence plus les mêmes péchés ou des péchés similaires, s'aligne sur ma force aidante et guérissante et la reçoit. Tous ces faits sont de soi-disant miracles. Mes apôtres et disciples qui m'entouraient quotidiennement furent témoins de guérison de malades et de résurrection de gens tenus pour morts. Malgré cela, le cœur de beaucoup d'entre eux resta froid. Ils s'étonnèrent bien de ce qui se passait, mais en restèrent pourtant là. Ils ne purent pas saisir la grandeur et la puissance des œuvres des forces cosmiques, parce que leurs pensées et leurs sens étaient encore prisonniers du monde. Bien que je leur ai enseigné les lois divines et leur mise en pratique, nombre d'entre eux restèrent finalement prisonniers de la loi des semailles et des récoltes, et s'étonnaient chaque jour d'une telle force. Tous ne comprirent pas que la loi de Dieu était également vivante en eux et qu'elle voulait aussi agir à travers eux comme à travers leur enseignant et maître, le Fils de Dieu en Jésus de Nazareth. Il se posait toujours les mêmes questions. Pourquoi et comment celui-ci avait-il reçu de l'aide, et pourquoi pas celui-là? Comme je vivais et agissais dans la loi de mon Père, je pus apporter aide et guérison à de nombreux hommes. Il ne me fut cependant pas possible d'en aider beaucoup d'autres, parce que dans leurs âmes, ils n'avaient pas réalisé les conditions préalables. Tous mes apôtres et disciples ne purent le comprendre. Plusieurs recommencèrent sans cesse à douter de moi et pesèrent le pour et le contre. En prière, je disais souvent à mon Dieu, mon Père, « Combien de temps encore dois-je rester parmi ces hommes inflexibles et entêtés ?» Voyez, celui qui dans sa vie ne fait qu'enregistrer la loi de l'amour sans la mettre en pratique, peut vivre jour après jour et heure après heure auprès d'un illuminé. Il restera néanmoins le pécheur qu'il était et qu'il est. La transformation de l'homme, du péché au divin, passe par la mise en pratique, par le travail sur soi-même. La transformation vers le divin implique préalablement le travail sur soi-même. Agis en transformant avec moi le Christ tes sensations, pensées, paroles et actes en force positive. Alors tu acquerras l'illumination. Il te deviendra possible de faire beaucoup de choses par la force de l'Esprit-Saint. Car celui qui me suit vraiment fera des choses comparables à celles que j'ai faites.
Et lorsqu'ils furent montés dans le bateau, un grand silence régna. Ils s'approchèrent et lui rendirent hommage en disant « En vérité, tu es le Fils de Dieu ». En arrivant de l'autre côté du lac, ils accostèrent sur la rive de Génézareth. Quand ils descendirent du bateau, il fut tout de suite reconnu. Ils accoururent de tout le pays alentour et commencèrent à apporter les malades sur des litières, là où ils entendaient qu'il était. Partout où il passait, dans les villages, dans les villes ou à la campagne, il mettait les malades dans les rues et le priait de les autoriser à toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ensuite, Jésus se rendit en Judée avec ses disciples, et il y resta, et baptisa beaucoup de ceux qui venaient à lui pour recevoir son enseignement.
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Beaucoup de gens vinrent à moi dans Jésus de Nazareth, mais tous ne reçurent pas ce qu'ils demandaient. Beaucoup de ceux qui venaient ne voulaient qu'une aide pour leur corps, afin de pouvoir à nouveau vivre dans la chair, comme auparavant, dans le péché. Beaucoup d'hommes touchèrent la frange de mon vêtement, mais tous ne reçurent pas aide et guérison. Ce sont ceux qui touchèrent la frange de mon vêtement en croyant à l'amour de Dieu et continuant à préserver le bon dans leur cœur, qui reçurent aide et guérison. Celui qui toucha la frange de mon vêtement en ne pensant qu'à son corps et conserva le péché dans son cœur en continuant à pécher dans ses années terrestres ultérieures, celui-là ne reçut ni aide ni guérison. Il est écrit ceci, « Et il resta et baptisa beaucoup de ceux ». Le mot « baptême » signifie « bénédiction du cœur, de l'existence intérieure » par l'Esprit-Saint. Je voyais dans le cœur des miens et constatais que dans ceux qui pratiquaient les lois de Dieu, la lumière et la force de Dieu augmentaient de jour en jour. Ma bénédiction fit germer d'autres semences de la vie intérieure en eux et y suscita l'aspiration à la perfection afin d'être en mesure de donner à d'autres ce qu'ils avaient réalisé en eux-mêmes et mis en pratique sur eux-mêmes, et cela au cours de la vie terrestre présente ainsi que lors d'incarnations futures.